hombre y un musulmán y un casero oriental. Se réduit totalement cette
histoire. Et
bonjour à tous et bienvenue à l'écoute des paroles aux auditeurs, votre tribune de tous les jours sur les antennes des Radio Capi sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations quotidiennes. C'est jeudi 8 avril 2010, nous parlons avec vous de la lutte contre les érosions. Ici, dans la ville de Kinshasa, une trentaine de maisons emportées et engloutis dans une érosion, plusieurs familles sans abri et de nombreux blessés, c'est le bilan provisoire des dernières pluies qui se sont abattues hier sur la capitale. Selon le bourgmestre de la commune d'Engaliema, des dégâts matériels et humains importants ont été enregistrés dans cette commune sur l'avenue Binza au quartier Manenga. Notons que la ville de Kinshasa est sous la menace de près de 600 têtes d'érosion, dont plus ou moins 82 sur le seul site de l'université de Kinshasa. Plusieurs villes du pays demeurent sous la menace des érosions, comme Kananga, avec près de 100 têtes d'érosion, dont la plupart menacent les édifices publics. 4 têtes d'érosion menacent la piste de l'aéroport national de Tshikapa. La situation est presque la même au Kasai oriental, en Bazangungu, au Bakongo, dans la province de l'Équateur, au sud que vous et ailleurs. Conscient du fait, le président de la République avait annoncé le 29 novembre 2009 en Boujimaï la mise en place début 2010 d'une structure nationale de lutte contre les érosions. Sa mission principale était la prévision et la gestion des érosions. Elle devait être dotée d'une expertise avérée en la matière. Que faire pour faire face au phénomène des érosions, avait expliqué Joseph Kabila. Quelle est la situation des érosions dans votre milieu? Que faut-il faire pour prévenir et mettre fin aux érosions? Vous avez la parole tout de suite. Nous en parlons dans cette émission avec M. Victor Ntumba Chikela, administrateur directeur général de l'Office des voiries et drainages OVD. Nous aurons également dans cette émission l'avis du professeur Kasongo Numbi. Il est professeur de géologie des génies civils à l'Université de Kinshasa. Cette émission est produite par Tissimputu Nicole Ndiaga qui la supervise sous la mise en onde de Mimi Kindou et Piro Elamegi vous la présente. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit de mardi à mercredi a causé des dégâts matériels importants. Une trentaine de maisons englouties dans une région dans la commune de Ngaliema. Et notons que la ville de Kinshasa est menacée par près de 600 têtes d'érosion, dont plus ou moins 82 sur le seul site de l'université de Kinshasa. Beaucoup des villes de la RDC, beaucoup des cités sont aussi menacées par les ravins. C'est la situation que nous évoquons avec vous aujourd'hui. Quelles sont les causes? Pourquoi on est arrivé à autant d'états d'érosion qui menacent nos villes? Et que faut-il faire aujourd'hui pour prévenir cela et mettre fin à toutes ces menaces qui constituent aujourd'hui les érosions pour la plupart des cités de la RDC? Nous en parlons avec vous dans cette émission. Kennedy, vous êtes à Kalimi, bien avant que nous puissions avoir nos invités dans cette émission. Kennedy, nous vous prenons, vous êtes à Kalimi. Kennedy, bonjour.
Oui, salut, Pierrot Lamégi.
Est-ce qu'à Kalimi, vous avez aussi des érosions qui menacent la cité?
C'est vraiment une situation déplorable ici à Kalimi, mon cher. Avec la pluie qui s'est abattue dans la nuit de ce mardi passé, c'est vraiment grave. On a pu enregistrer des dégâts matériels au niveau de la ville Kalumbi, bloc Lutuga, avec le fait que Lutuga a gonflé beaucoup d'eau. Alors, tous ces habitants-là qui sont le long de la rivière Lutuga ont été inondés. Leurs maisons ont été inondées. On a trouvé vraiment des dégâts matériels, mais pas des dégâts humains. De l'autre côté aussi, dans le quartier Kamkolo-Bondo, nous avons la rivière Kalumbi qui inonde les maisons qui habitent le long de cette rivière.
Kennedy, mais est-ce que après la pluie, il y a eu des maisons qui ont été emportées par des érosions?
Non. Il y a eu des maisons qui ont été.
Et là, on a problème de ligne avec Kennedy, on pourra le récupérer. Patrick, vous êtes ici à Kinshasa. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Nous parlons des érosions qui menacent la ville de Kinshasa. Vous le savez que près de 600 têtes d'érosion menacent cette ville. Et pas plus tard que le mardi, la nuit, vous rappelez, avec la grande pluie qui s'est abattue sur la ville, une trentaine d'habitations de la commune d'Engaliema ont été englouties dans une érosion. Et nous en parlons ici à Kinshasa. Pour vous qui êtes à Kinshasa, à quoi vous attribuez la multiplicité de ces érosions dans cette ville?
Oui, merci monsieur, parce que en fait, moi je suis à Mongafola. Et Mongafola aussi c'est un quartier qui est terriblement menacé. Avec plus d'érosion. Et c'est ce qui fait que la situation devient difficile. Donc, pour moi, je trouve que je peux attribuer cela en fait à la gestion des systèmes de l'urbanisme dans notre pays. Parce que moi j'estime que si le pouvoir public pouvait faire un effort avant de distribuer les parcelles aux gens, mais juste essayer de procéder par l'urbanisation et l'étude du sol avant de distribuer les parcelles aux gens, j'estime que ça pourrait aider à éviter à ce que nous puissions arriver, que nous puissions connaître ce genre de problème. En dehors de ça, vous.
Allez-y,
Oui. Et en dehors de ça, nous pouvons dire que, voyez un quartier comme Maman Mobutu. Avant que Maman Mobutu ne puisse commencer à poser des problèmes, en fait, c'est sur un terrain qui est une pente, mais comme les gens qui reconstruisent avaient procédé par construire des caniveaux et des voies d'évacuation d'eau, en fait, c'est un quartier pendant longtemps qui n'a pas posé des problèmes. Mais quand est-ce que ça commence à poser des problèmes, c'est quand les gens sont allés construire sur des terrains de manière anarchique, sans études préalables, et voilà maintenant les effets que ça pose comme problème. Donc je pense que les pouvoirs publics devaient faire un effort pour procéder à une étude du sol au préalable avant de distribuer des terrains. C'est un peu ça mon projet.
Oui, Fatih, mais est-ce qu'à Mongafula, vous avez déjà quelques ouvrages qui ont déjà commencé, les travaux de lutte contre ces érosions, vous les avez déjà à Mongafula ou bien la situation est la même, il n'y a pas de changement?
La situation est la même, en tout cas de ce côté, il n'y a pas de changement. C'est presque la même chose que sur le site de l'université de Kinshasa. Il n'y a pas de travaux qui ont commencé. En fait, ce sont les gens qui essayent avec des petits moyens, avec des sacs par-ci par-là, et qui essayent de se débrouiller. Mais sinon, la situation n'a pas changé. On a comme l'impression que ça n'inquiète même pas l'autorité locale ou les autorités nationales. Et si on ne fait pas attention, ce sont des quartiers entiers ou des communes entières qui vont disparaître de la carte.
Merci, Patti. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons aussi prendre Jean-Marie qui est à Kirumba après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Jean-Marie, vous êtes à Kirumba, dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Est-ce qu'à Kirumba, vous êtes aussi menacé par les érosions, comme on a décrit ici à Kinshasa?
Oui, également ici à Kirumba, c'est le même phénomène. Les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur notre milieu provoquent d'énormes dégâts, surtout matériels. On déplore surtout des pertes bientôt de maisons dans des vallées. Souvent, les eaux qui coulent dans des vallées élargissent les lits des ravins et des parcelles qui sont voisines risqueront un jour d'être perdues. Alors, notre crainte est que plus tard, des populations qui sont très grandes d'ailleurs manqueront plus tard des parcelles.
Jean-Marie, à quoi vous attribuez ces érosions dans la cité de Kirumba?
Bon, ces érosions, d'abord, sont, comme vous le savez, des phénomènes naturels. Lorsque la pluie tombe, et s'il y a écoulement d'eau, les eaux rongent progressivement la roche voisine, et finalement, les parcelles-là vont être. Moi, je crois que, bon, comme remède, il fallait que ces eaux-là puissent être recueillies, déjà à partir des habitations. On installe des gros bidons au coin de chaque parcelle pour qu'une fois ces eaux recueillies, qu'elles puissent servir dans des activités, par exemple, le lavage des véhicules, le lavage des habits, ainsi de suite, pour qu'en moins, l'écoulement ne soit pas tellement aggravé et faire disparaître de la carte de la RDC certaines parcelles.
Oui, Jean-Marie, mais en attendant, est-ce que vous avez quand même quelques travaux qui ont commencé pour prévenir ces érosions ou soit qui ont déjà commencé pour arrêter la progression de ces différentes érosions qui menacent la cité des Colombes, ou bien les gens regardent encore faire jusqu'à ce que beaucoup de maisons vont être englouties? Qu'est-ce qui se passe pour le moment?
Bon, pour le moment, nous avons fait avec la radio RCL, c'est une radio communautaire de l'Europe Sud qui est née de la cité de Colomba, installée depuis près d'un mois, avec aussi le président du comité de développement, M. Kassari Kassassita, pour qu'on tente d'étudier les voies de moyens afin qu'on mette fin à ce phénomène-là. Et aussi, qu'on étudie, qu'on cherche même des topographes qui pourront nous aider plus tard à bien relocaliser ces populations-là qui souffrent et puis comment faire à ce phénomène-là à travers des activités qui ont d'ailleurs été commencées dans notre cité. D'ailleurs, la fois prochaine, il y aura la tenue d'une grande réunion de développement au sujet de plusieurs questions et celle-là sera à bonne place dans la réunion qu'on va tenir. Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans notre milieu et surtout ces grandes pluies qui tombent sans qu'on ne le prévoit sur la météo actuellement dans notre région ici à Kirumba au Nord Kivu.
Merci beaucoup Jean-Marie, vous êtes à Kirumba, c'est dans la province du Nord Kivu. Merci de votre témoignage et surtout de l'engagement pris pour parvenir à réfléchir ensemble et trouver solution au problème des érosions qui menacent la cité de Kirumba. Nous vous disons merci et bonne journée. Nous revenons ici à Kinshasa. Capi vient de nous appeler. Capi, bonjour. Capi, vous êtes en ligne, bonjour. On a des problèmes de ligne avec Capi, le temps que la réalisation puisse la récupérer. Revenons pour dire que les érosions qui menacent le site universitaire de la ville de Kinshasa ont été au centre d'un protocole d'accord, un partenariat signé entre l'université de Kinshasa avec des entreprises chinoises pour que le travail de lutte contre les érosions puisse commencer sur le site universitaire. Comme nous l'avons dit, ce site qui est menacé par plus ou moins 82 têtes d'érosion. Mais on se rappelle qu'au mois de novembre, lors de son dernier séjour dans la province du Kasaï oriental, le chef de l'État, vu l'ampleur de problèmes d'érosion qui se posent, avait annoncé la créature d'une structure qui devait être dotée des experts, des ingénieurs, des architectes, des économistes et autres environnementalistes. La structure c'est une structure nationale qui devait avoir pour objet de prévenir, de gérer et de combattre les érosions. Alors, la structure devait commencer à travailler à partir du mois, en fait, au début de cette année 2010, pour parvenir à régler tous ces problèmes d'érosion qui se posent à travers nos cités. Comme je vous avais annoncé, nous avons dans cette émission le professeur Kasongo Numbi. Vous êtes professeur de géologie des génies civils à l'université de Kinshasa et vous êtes aussi député national. Professeur, bonjour.
Merci
d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission Parole aux auditeurs qui se penche aujourd'hui sur la situation d'érosion qui menace la plupart des villes de la RDC. On parle de Kinshasa avec plus ou moins 600 têtes d'érosion. Les sites de l'université de Kinshasa à 82, 4 érosions menacent la piste de l'aéroport national de Chikapa, une centaine dans la ville de Kananga, Banzangongo et partout ailleurs, professeur, l'ampleur de la situation telle qu'on est en train de l'évoquer. Vous enseignez la géologie des génies civils. Pouvez-vous aider les auditeurs à comprendre d'abord quelles sont les causes de ces différentes érosions qui évoquées à travers le pays, professeur?
Les érosions n'ont lieu que dans les villes où le sol est constitué du sable. Parce que les grains de sable ne sont pas collés les uns contre les autres. Dans les villes comme le Lubumbashi où le sol est constitué d'argile, il n'y a pas d'érosion, enfin les érosions sont là, mais ne sont pas spectaculaires. Donc ça c'est la première chose, il faut que la ville soit construite sur du sable. Ensuite, il faudrait que la ville soit construite sur des collines sableuses. C'est la première chose. En ce qui concerne tout ça, nous avons, alors, l'érosion se croit, c'est l'eau de pluie qui tombe, qui ruisselle, et comme les grains de sable ne sont pas collés les uns contre les autres, alors l'eau de pluie, par sa vitesse, nous entraîne les grains du sol et creuse. Donc, dans la ville de Kinshasa, les érosions, vous ne les voyez pas dans les collines, dans les communes à sable, mais sans, dans les communes à sable, mais sans collines, comme Lingala, Kassavubu, et tout ça. Vous le verrez que sur les collines, les communes à sable, avec collines.
Mais professeur, bon, est-ce que aujourd'hui on peut aussi attribuer cela au problème de lotissement, parce qu'on voit tous ces quartiers, quand les gens n'y habitaient pas, il n'y avait pas de problème aussi de d'érosion. Mais avec le lotissement, on peut dire que le lotissement aussi est à la base du développement spectaculaire d'érosion, tel qu'on le voit dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes, professeur.
Tout à fait. C'est-à-dire avant de construire une ville, on fait le plan d'urbanisation de la ville. Dans les années 50, les Belges ont conseillé, pour éviter les érosions notamment, que la ville s'étende sur la partie basse, où il n'y a pas d'érosion, c'est-à-dire vers l'aéroport, vers Maluku. Et puis après ce plan d'urbanisation de la ville par les Belges, il y a eu le plan fait par les Français. Je crois que c'est dans les années 68 à peu près, qui se trouve à l'OVD. Les Français ont pensé aussi comme les Belges qu'il faut que la ville s'étende vers Maluku. Et puis on a appelé les Japonais qui ont dit la même chose, que la ville doit s'étendre vers Maluku. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous avons choisi de l'étendre vers le sud, vers la partie collinaire.
Comme la commune d'Ngaliema, Mongafula.
Voilà, donc ça c'est un choix libre que nous avons fait. Ce soir, mais les collines, pour nous des géologues, les collines peuvent être constituées de cailloux, comme c'est le cas à Matadi, où on ne déplore pas de problème d'érosion, comme c'est le cas à Bukavu, comme c'est le cas à Likasi. Mais les collines peuvent être de fausses collines, parce qu'en fait, ce sont des dunes de sable, juste couvertes d'herbe. Ce sont des dunes de sable, comme ce qu'on voit dans le désert, c'est le cas de toutes ces collines que nous avons à Kinshasa. Alors, lorsque librement nous avons choisi de construire nos maisons sur les dunes de sable, vous savez que même Jésus déconseillait de construire sa maison sur le sable. Du moment que librement nous avons choisi de construire nos maisons sur les dunes de sable, à côté d'un fleuve aussi puissant que le fleuve Congo, qui est à près d'élargir son lit. Vous savez que tout le monde est à l'aise dans un grand lit. Alors le fleuve Congo, s'il veut avoir un grand lit, il y a, par exemple, dans le pont Malebo, si on additionne les îles, il a à peu près, son lit à peu près 25 km. Donc, quand on le contraint dans un petit lit, vous voyez qu'il gronde, qu'il est nerveux, etc., comme au niveau des carigrés. À ce moment-là, le fleuve travaille par ses émissaires, comme le cours d'eau qui traverse la ville, à élargir son lit. Et nous devons nous battre pour contenir notre fleuve. Donc le combat qu'il y a ici, notamment à Kinshasa, c'est le fleuve qui veut élargir son lit et la ville d'affaires. Les décideurs qui ont décidé de contrer le fleuve en construisant sur le colline que le fleuve veut aplanir.
Professeur, on va revenir à vous pour parler aussi, comme nous sommes en train de parler de la prévention, nous allons vous redonner la parole. Le temps aussi d'écouter quelques auditeurs qui ont aussi des préoccupations sur les antennes, comme Viviane qui est à Kolwezi, Axel qui est à Kindu dans la province du Maniema. Viviane, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Alors, moi, je parlerai plus de Kolwezi. Je pense bien que la faute lourde incombe à eux. C'est eux, c'est les responsables des cadastres. C'est eux, vraiment, qui doivent prendre des mesures pour ne pas lotir dans des endroits susceptibles de connaître des érosions. Chaque fois, ils sont techniciens, quand même, en la matière, et ils le savent très bien. À ce propos, je dirais que simplement qu'ils veillent une étude technique pour détecter quels sont les endroits dangereux, qu'on puisse donner d'autres endroits peut-être à ces personnes afin qu'ils déménagent et aillent construire là-bas. Ceci évitera des dégâts, parce que pour qu'on puisse pas chaque fois, et chaque année plutôt, parler des érosions, par exemple ici à Colésie, ce qui se passe ici, je le vois vraiment, c'est pas encourageant. Les autorités politico-administratives sont vraiment prêts à céder les habitants pour ces érosions, les efforts sont palpables, mais ça ne va pas toujours. Alors, je leur demanderai de déménager, nous contactons vraiment les services de cadastre.
Merci, Viviane. Vous pensez qu'il faut d'abord des études au préalable, hein, avant de procéder au lotissement en fait, d'un terrain? Il faut d'abord faire des études, savoir si ce terrain peut être habitable. Et merci, hein, de ce point de vue, vous êtes à Colésie. Allons à Kindu, où se trouve Axel. Axel, bonjour.
Bonjour, Mme Elgin. Bonjour, bonjour à la radio Capi et tous les auditeurs. Mme Elgin, j'ai une préoccupation. Je voudrais vous dire que les pays se mèrent, les pays généralement se mèrent. Parce que, si vous constatez une situation de province, j'ai été à Kindu, à Mongafou, exactement. Nous, on travaille à parler de Mongafou. Là, j'ai été à Goma, les amis de Goma, très intervenir aussi, comme aussi à Bukavu. Mais je prends l'expérience ici. Quand je dis le pays se mère, cela dure. On ne peut jamais se développer dans un écosystème qui se mère, dans un environnement terrestre qui se mère. Il vaut mieux multiplier beaucoup d'efforts pour que cet écosystème soit à la mesure de nourrir les Congolais. Mais lorsque nous, Congolais, nous ne savons pas entretenir cet écosystème, parce que c'est que ça, nous sommes dans les parcours vers le nerf. Alors, je prends l'exemple de la ville de Zimbou, il y a par exemple la commune de Michelinville. Il y a des ravins, quelque part, des ravins qui nous donnent vraiment en nourriture l'habitation ou les habitats même de cette commune-là. Parce qu'ici, il n'y a aucun effort qui est consenti au niveau de cette commune pour que les régions puissent être arrêtées. Et comment les arrêter? Avec quels moyens? Comment les arrêter et avec quels moyens? Et nous sommes en train d'assister comment les gens sont en train de souffrir. Et c'est vraiment inacceptable à mes yeux. Donc, il n'y a pas que la commune de Michelinville, il y a également, quand on prend la route qui mène vers l'aérodrome, il y a des habitants qui ont construit à côté de la route qui mène vers l'aéroport de Kindu. Et ces habitants sont menacés de toutes les régions. Nous savons qu'avec la pluie qui est un phénomène naturel, nous allons aboutir à quel niveau d'écosystème lorsque nous n'en faisons pas. C'est un surtout qui est un service. Soit installé, soit institué. Je n'appelle pas un service, mais j'appelle ça un programme national de lutte contre les érosions. C'est-à-dire un programme anti-érosif dans notre pays. Là, c'est les services de Paris, au vin et de Ben, ne laissent pratiquement rien. Le service ne fait pratiquement rien. L'État lui-même ne fait pratiquement rien. Ça suffit quoi? Ça suffit que le pays est en train de se mourir. Donc, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Ça fait deux. Je veux souhaiter que les services de cadastre ne puissent plus donner des échanges, nous donner des lotissements qui sont dans les communes, les montagnes, ça ne sert à rien. Donc, c'est à ce niveau-là que j'interpelle et le gouvernement, et même le Congolais, parce que c'est même les bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent ensemble voir balancer les zones qui vont constituer notre écosystème.
Merci, Axel.
Et qu'un service soit installé, un programme national de lutte contre les érosions. Voilà un peu la magie et les réalités des crimes.
Merci Axel. Le président de la République avait annoncé en Boujimaï la création d'un service national, une structure nationale de lutte contre les érosions. On en a évoqué dans cette émission. Professeur Kassongo, vous avez suivi les auditeurs. Mais est-ce que vous avez l'impression que au niveau du ministère de titre foncier, de tous les ministères qui gèrent l'habitat, qui gèrent la terre, est-ce que vous avez l'impression qu'ils associent les experts avant de décider le lotissement d'un quartier à travers le pays? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils associent les experts quand on veut lotir les quartiers aujourd'hui dans ces pays?
Non, moi, Viviane a raison de dire qu'il faut des études, bien sûr, je ne connais pas sa formation, mais elle dit une chose que j'ai toujours appuyée. Clairement, on fait ce qu'on appelle une carte, entre autres, on fait ce qu'on appelle la carte biotechnique de la ville. C'est-à-dire que cette carte montre les différents sols. Nous, en tant que géologues, nous savons que la terre que l'on considère comme ça est faite comme un corps humain. Il y a une partie, c'est le cœur, une autre partie, c'est un os, une autre partie, c'est un muscle, etc. Donc, le sol n'est pas, la terre n'est pas uniforme. Il y a des endroits où c'est délargé. Si vous construisez là-bas, votre maison va s'enfoncer de plus en plus et s'effondrer. C'est le cas que l'on voit de beaucoup de maisons à Lubumbashi qui sont fendillées. Si vous y faites une route, elle va se casser et puis se casser. D'autres endroits, c'est du sable. D'autres endroits, il y a de l'eau souterraine, etc. Donc, Guyane a raison. Il faudrait d'abord qu'on ait dans nos villes une carte géotechnique qui montre exactement à chacun. Vous avez loué ici, voici le problème auquel vous allez avoir affaire. Effectivement aussi, le coût, quand le cadastre vous donne une parcelle, le coût est affecté aussi de toutes ces servitudes auxquelles vous allez avoir. Celui qui construit sur un rocher où il y aura peu de problèmes va payer peut-être plus cher que celui qui sait que, faute de moyens, il a choisi un endroit susceptible d'être inondé, susceptible de tassement, susceptible d'érosion. Mmh. Ensuite, ce plan, une fois fait, il faut encore qu'on le respecte. Et c'est là le problème, parce que, comme vous, tout le monde déplore des fois ce qui semblerait être la France d'un État organisé, il faut encore qu'on le respecte. Quand à Axel
de Kindu.
De Kindu, j'ai jamais été à Kindu, mais d'après ce que j'entends, il y a des érosions, donc il y a du sable. Il dit qu'il faut qu'on lit, qu'il pose deux questions. Comment arrêter et avec quels moyens?
Voilà.
Alors, moi je pense que cette mission devrait peut-être... En fait, c'est pas moi qui la dirige. Je crois que c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Donc, comment arrêter? D'abord, comme dit Viviane, faire une carte géotechnique de toutes nos villes pour qu'on sache où on peut le dire, où on ne peut pas, et se faire respecter. Mais une fois qu'on a des érosions, c'est le cas de la plupart, dans la plupart de nos villes, à Kinshasa, où on parle entre 6 et 8 familles têtes d'érosion, comment arrêter ce qui est déjà fait? Peut-être qu'on aurait arrêté en interdisant des lotissements nouveaux sur le parti collinaire. Si on veut suivre les études, parce qu'il ne suffit pas de les faire, elles coûtent cher, il faut encore qu'on les respecte. Qu'on puisse étendre la ville vers Malouk pour les nouveaux lotissements. Ensuite, pour là où ça existe déjà, ce qui me touche beaucoup ici, c'est que je suis content qu'on ait proposé la création de cette équipe multidisciplinaire, mais bien sûr, s'il y a une épidémie, on fait une équipe multidisciplinaire pour lutter contre cette épidémie. Cette équipe peut avoir 1000 personnes, mais si parmi ces personnes il n'y a aucun médecin, je ne crois pas que la lutte contre cette épidémie soit efficace. Et même s'il y a un médecin, il faudrait qu'il soit épidémiologiste. Les équipes que l'on va faire, les personnes seront choisies comment? Nous connaissons notre pays, dès qu'on sent que l'argent va couler de ce côté-là, c'est tous les décideurs qui s'y mettent d'abord avec leurs proches, et puis finalement, l'équipe est incompétente de comprendre le problème qui se passe. Donc, c'est déjà une mesure qu'il y ait une équipe. Mais, si on peut parler de ce qui se passe, j'ai toujours dit ça à l'OVD, c'est depuis 80 ans que je travaille avec l'OVD et d'autres, l'agence de grands travaux, pour lutter contre les érosions. Nous sommes un pays qui utilise encore des méthodes archaïques de lutte contre les érosions. Ici, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on attaque l'érosion sécreuse, donc il n'y a pas de méthode de prévention, parce que les 800 têtes d'érosion, 600 têtes d'érosion qu'il y a contre ça, ce ne sont pas déjà des grandes crevasses spectaculaires. Il s'agit plutôt de têtes d'érosion qui commencent. Donc, du point de vue lutte, je ne vois pas un plan pour empêcher les érosions de se creuser. ça c'est déjà une grosse erreur. Parce que si on empêchait les horizons de se creuser, nous avons été avec le ministre de Travaux publics et du plan de la ville de Kinshasa, avec le ministre de l'Environnement, dans le quartier Mamayemo à Kinshasa, nous avons trouvé là des têtes d'érosion. On m'a demandé d'appliquer les nouvelles techniques. Je dis qu'avec de nouvelles techniques, on est entre 100 et 200 000 dollars pour arrêter une tête d'érosion. Tandis que si elle se creuse, comme celle de Kindele où mon bureau travaille, le gouvernement paye 4 700 000 dollars. Donc vous voyez, en partant d'entre 100 et 200 000 dollars, et payer plutôt environ 7 millions, vous voyez que l'écart est très important. Il n'y a pas un plan à contre ça d'arrêter le tête des réseaux au moment où elle commence. Tout le monde le dit. Et puis quand elle a commencé, maintenant, pourquoi ça coûte si cher? Parce qu'on veut remblayer, c'est-à-dire on veut le remplir de terre que l'on va prendre ailleurs. Et le coût de cette terre du Nord à Kindele, ça coûte 38 dollars le mètre cube compacté. Alors, pour remplir un volume d'environ 100 000 mètres cubes, vous voyez déjà que vous êtes à 3 800 000, et puis ça peut être plus, le volume peut être plus grand que ça.
On
met encore, comme je dis à Delvaux, les Chinois travaillent là-bas avec des méthodes archaïques, on construit des briques de caniveaux en briques, de gros caniveaux qu'on appelle des glissières, en briques en béton. Ces méthodes sont déjà abandonnées partout. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend des tuyaux. Il y a des tuyaux qui existent. On prend des tuyaux en lieu place du béton. On met des tuyaux pour que l'eau coule dedans. J'ai donné à l'OVD même des diapositives avec des photos avec ce tuyau d'un diamètre où un être humain peut se tenir dedans dans le tuyau. Ce tuyau a l'avantage. Une fois vous l'avez, vous pouvez couvrir 1 kilomètre, 2 kilomètres.
Ok, professeur, on va revenir à vous. Mais professeur, on va revenir à vous, s'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît, professeur. Professeur, on va revenir à vous parce que nous allons évoquer toutes les solutions efficaces qu'il faudrait aujourd'hui appliquer pour lutter contre les érosions. Si vous nous suivez, comme nous sommes dans un dialogue, nous allons aussi prendre les avis des auditeurs qui interviennent dans cette émission, mais nous allons déjà vers la dernière partie de l'émission qui est consacrée aux solutions qu'il faudrait aujourd'hui pour mettre fin à toutes les érosions. Vous allez revenir encore pour expliquer dans les termes un peu plus clairs aux auditeurs quelles sont les procédures qui peuvent être utilisées pour mettre fin aux érosions et aussi les moyens de bord que les habitants des différents quartiers peuvent utiliser en attendant que l'État puisse descendre pour intervenir avec de bons moyens. Vous allez aussi leur donner cela, le temps aussi que nous puissions prendre les quelques auditeurs qui sont déjà en ligne.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs se penche aujourd'hui sur la lutte contre les érosions. Vous savez qu'elles sont nombreuses qui menacent les différentes villes de la RDC. À Kinshasa, plus ou moins 600 têtes d'érosion menacent la ville avec 82 et qui sont logés sur les sites universitaires de l'Université de Kinshasa. Les dernières pluies ont causé des dégâts à une trentaine de maisons dans la commune d'Engaliema, englouties dans une érosion, et aussi ailleurs comme à Kananga, à Chikapa, en Bujimai ou à Banzangou dans la province du Bas-Congo. Et au sud Kivu, au nord Kivu, les érosions sont une menace réelle pour les cités, pour la population. Que faut-il faire aujourd'hui pour prévenir et lutter contre ces érosions? Nous en parlons avec vos auditeurs de Radio Kapi, mais nous avons aussi au téléphone le professeur Kassongo Noumbi qui enseigne la géologie des génies civils à l'Université de Kinshasa. Mais dommage, on devrait avoir dans cette émission l'administrateur et directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD qui avait donné son accord de principe pour intervenir dans cette émission, donner aussi, répondre aux préoccupations de ses auditeurs sur les travaux des luttes contre les érosions à travers le pays. Dommage que jusqu'à ce moment, on ne l'a pas encore. On espère qu'il pourra intervenir dans cette émission. Mais nous restons ici à Kinshasa avec Honorable Emery Okundi. Vous êtes député national, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en train de parler de cette situation, hein, de ces érosions qui menacent la ville de Kinshasa. Vous êtes député national. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez initié pour aider le gouvernement, ou soit en tant que député national, pour parvenir à arrêter ces érosions qui menacent la ville de Kinshasa, par exemple? Qu'est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez déjà entrepris comme démarche?
Eh bien, vous savez, notre mission traditionnelle, c'est de contrôler et de légiférer. Et sur cette question d'érosion, il y a une question orale avec débat d'un collègue qui est déjà déposé, qui devait même être traité hier, mais que l'on a reporté à une date ultérieure. Je suis content que vous êtes avec mon collègue spécialiste, le professeur Kassongonoumi, pour ne pas le citer. C'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui peut même nous proposer de voir des sorties. Il appartiendra au gouvernement d'en tenir compte. Puisque les têtes d'érosion, non seulement ici à Kinshasa, mais comme vous l'aviez souligné, même ici au Sankourou, chez moi à Tchoumbé, dernièrement, il y a peut-être 3 têtes d'érosion qui menacent Tchoumbé. Il y a eu plus de 6 maisons qui ont été englouties. La cité de l'autre, n'en parlons même pas, cette cité est menacée de disparition si rien n'est fait. Donc, c'est un problème sérieux. En tant que législateur, en tant que député national, nous devons nous y pencher pour faire des recommandations au gouvernement qui pourra, en tout cas, prendre des mesures adéquates.
On connaît bien les recommandations que l'Assemblée nationale adresse au gouvernement. On connaît la suite avec les recommandations. Plusieurs fois, vous vous êtes plaint que le gouvernement ne semble pas prendre en compte ces recommandations. Mais est-ce qu'au niveau du budget, quand vous légiférez, est-ce qu'au niveau du budget, par exemple, quelle est la part que vous réservez à la lutte contre les érosions, par exemple, dans le budget 2010? Quelle a été la part que vous avez réservée à la lutte contre les érosions?
Alors, le budget, c'est, nous mettons des enveloppes à la disposition du gouvernement. C'est le projet du budget qui émane du gouvernement. Donc, je ne saurais pas vous dire avec certitude aujourd'hui qu'on a mis tel montant uniquement pour les érosions. Il y a une enveloppe mise à la disposition du gouvernement pour faire face à tout ça. C'est le gouvernement qui gère au quotidien. Donc, lorsque le problème surgit, eh bien, c'est le gouvernement qui met la main dans l'enveloppe réservée à cette situation pour y remédier. Très souvent, ce que nous constatons, c'est qu'on attend que la situation s'empire ou que la situation devienne plus grave pour intervenir. Donc, il faudrait que le gouvernement se serve de l'expérience, de l'expertise du collègue Kassongonoumi, par exemple, pour, en tout cas, mener une lutte préventive à ce fléau qui guette toute la République démocratique du Congo.
Merci, honorable. Nous pensons, comme l'Assemblée va adresser une question orale, je pense bien au ministre des Travaux publics, je crois bien qu'il gère tous ces travaux. Je pense que ce n'est pas si c'est à lui que vous allez adresser la question, ou bien la question sera adressée à qui, monsieur le député?
C'est au ministre des Infrastructures, des Travaux publics et Reconstruction.
Voilà.
La question avait été adressé.
Nous pensons qu'avec cette question, on aura quand même des réponses plus précises et pratiques par rapport aux inquiétudes de la population sur les différentes érosions qui menacent les villes. Merci beaucoup. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons à Kananga au Kasaï occidental avec Théodore. Bonjour.
Bonjour, Pierre et la Mengi.
On vient de dire qu'il y a plus ou moins 100 têtes d'érosion qui menacent cette ville. Et les érosions menacent plus les grands édifices publics, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Kananga pour lutter contre ces érosions, pour les arrêter? Et surtout, c'est celles qui menacent les édifices publics.
Merci beaucoup, mon ami Pierre et la Mengi. Je voudrais dire que la maîtrise de la société est une des conditions de développement d'un pays. C'est-à-dire connaître les réalités de l'environnement, les opportunités qu'offre la société et les moyens dont on dispose pour mettre en chantier ces opportunités. C'est-à-dire qu'il faut saisir les problèmes des érosions dans une totalité, dans un système tout à fait congolais. Quand vous prenez d'une manière spécifique la ville de Kananga, je vous dis que c'est déplorable. Bientôt, je crois que la prison centrale de la ville de Kananga va disparaître puisqu'il y a des grandes pertes et des érosions très, très dangereuses. Quand vous prenez l'hôpital général, n'en parlons pas bientôt, puisqu'il n'y a pas une gestion rationnelle de ces érosions, ça va encore partir. Et vous en avez comme ça dans tous les quartiers possibles. Je voudrais dire que les colons avaient construit cette ville en mettant tout autour de cette ville des canons d'évacuation des eaux. Et avec maintenant cette distribution anarchique de places réservées aux immondices, aujourd'hui la ville n'a même pas d'espace pour encore qu'on donne aux populations des parcelles. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est responsabiliser non seulement les dirigeants, les gouvernants, mais aussi les gouvernés. Parce que l'érosion, lorsqu'elle attaque une cité, un quartier, elle concerne aussi, d'ailleurs c'est dans la plupart des cas, les gouverneurs qui sont dans les périphéries, puisque les autorités, les dirigeants, et habitent les centres-villes, habitent les maisons en état, ils ne sont pas totalement affectés. Je voudrais dire que dans la ville de Kalanga, mon cher Pierrot, on ne sait pas si réellement on gère cette cité ou elle est abandonnée. Il n'y a aucune érosion qui est encore attaquée. Si j'apprends qu'à Kolwezi, on fait quelque chose, ailleurs on fait quelque chose, mais à Kalanga, il n'y a rien qui se fait en ce qui concerne les érosions. Elles sont abandonnées, elles continuent toujours, et les populations, comme en Kelekele, il y a quelques populations qui ont quitté ce quartier-là, sont allées ailleurs, et quand vous êtes à Kamaï prison, il y a les habitants qui ont quitté, qui sont allés ailleurs, et ça se fait comme ça du jour au jour. Faut-il alors parler de quoi? Comme mesures préventives. Il faut maintenant même parler de mesures curatives et préventives.
Mais par rapport à ces mesures curatives, à vous entendre, on dirait que toutes ces cités sont abandonnées à elles-mêmes, il n'y a personne qui s'en occupe. Et pourtant, il y a des travaux qui ont été amorcés sur les sites du ravin de l'érosion, de l'hôpital général, même au niveau de la prison. En vous entendre parler, c'est comme si tous ces travaux ont été stoppés, il n'y a rien qui s'est fait et les érosions progressent.
À l'époque, nous avions même discuté à la radio du Kudieto, qui a eu même les ONG. Même les bailleurs de fonds, certains qui avaient bénéficié des fonds au niveau de la Banque centrale et au niveau de la Banque mondiale, qui sont venus pour entamer les travaux, comme de côté du quartier hôpital, là où vous signez à côté de l'hôpital général, et les travaux ont été suspendus. Les fonds-là ont été détournés, et ces gens sont en train de circuler librement dans la ville de Kinshasa. Et bien vous les avez aussi même pour les bâtiments de l'État, par-ci, par-là, ceux qui ont obtenu des fonds, qui, après avoir détourné ces fonds, sont libres et ils sont là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il y ait la participation et de la population. Comme nous devons nous prendre en charge, comme vous le disiez, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Lorsqu'il y a déjà une érosion qui commence dans notre quartier, comme chez nous dans notre quartier, même, nous avons cotisé, nous avons payé les taxes. Lorsque l'érosion commençait, nous sommes allés mettre les taxes et nous avons réduit cette érosion-là. Il faut que la population d'abord se prenne en charge. Donc les autorités maintenant s'occupent plus de se payer des histoires et de préparer leur campagne et les érosions vont continuer dans la ville de Kalanga.
Et vous conseillez aux populations de se prendre en charge, de cotiser de l'argent, peut-être c'est quand il y a une érosion qui commence une petite aide, mais quand il y a déjà une grande crevasse comme on voit ailleurs, je ne sais pas quel moyen la population pourra avoir pour arrêter cela. Merci Théodore de ce témoignage et de cet appel. Vous êtes à Kalanga, Kasa Occidental. Nous allons à Kisangani avec Albert. Albert, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons des érosions qui menacent nos villes. Concrètement, si vous avez des érosions à Kisangani, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter ces érosions que vous avez à Kisangani? Parce que nous sommes dans cette partie maintenant qui donne des voies et moyens pour sortir de toutes ces situations, Albert.
Bon, Kisangani, bien merci pratiquement. La ville de Kisangani n'est pas tellement une ville qui a beaucoup d'érosions. Parce que d'ailleurs, si on voit bien l'histoire, c'est l'une des villes aînées du Bangui du pays. Malheureusement, dans les endroits où la politique on est, on n'avait pas autorisé de construire, alors maintenant les gens commencent à construire. Mais néanmoins, si le plan est réussi, peut-être que Kisangani ne connaît pas vraiment cette situation, sauf si les canalisations sont presque bouchées. Bon, il n'y a aucun service qui s'occupe de ça. Il y a le CP qui est déjà anéanti. Les CPV n'existent pas, la voirie urbaine est inexistante, et bon, il y a l'office de route qui est en train de se démener sur la route d'Amalia. Bon, il y a aussi, on veut de créer une régie ici, du parti. Bref, en tout cas, pour contenir, en tout cas, pour le côté érosion, tout le monde qui s'en a mis, on connaît pas cette situation, sauf le constitution anarchique qui bat les policiers qui s'en a mis, le constitution anarchique.
Merci Albert, mais vous avez peur que ces constitutions anarchiques puissent, avec le temps, naître des érosions. Mais revenons à vous, professeur Kasongo. Vous avez suivi les avis des uns et des autres. Maintenant, aujourd'hui, les érosions sont déjà là dans beaucoup de villes. C'est la menace. On voit les travaux de construction à gauche, à droite. Vous semblez ne pas être d'accord avec les travaux tels qu'ils sont en train d'être entrepris ici à Kinshasa et ailleurs. Les méthodes qu'on utilise, vous dites que ce sont des méthodes archaïques. Mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont les méthodes efficaces qu'on peut utiliser pour mettre fin à toutes ces érosions qui menacent la ville de Kinshasa et les autres cités de la RDC?
Je disais d'abord que... merci beaucoup, c'est mon avis. Je disais d'abord qu'il faudrait... comme si je résume, qu'on a des cartes de chaque ville. Ensuite, concrètement sur le terrain, je disais qu'il faut abandonner le bétonnage pour mettre des plus flexibles comme on le fait dans le monde entier. En ce qui concerne les érosions qui ont des types d'érosions qui menacent de se... enfin, excusez-moi d'utiliser des termes scientifiques, il y a ce qu'on appelle de geo-web. C'est comme... une toile d'araignée, plus le nid d'abeilles, c'est plus comme des nids d'abeilles qu'il faut fabriquer en, si on dit, faut utiliser le langage que tout le monde comprend, en PVC. Ce n'est pas vraiment du PVC, mais ça ressemble du PVC. C'est surtout ça que l'on utilise. Il suffit de le tendre comme une natte sur une avenue et le remplir de caillasse. Ça, c'est pour 20 à 30 ans. Ça ne sera pas attaqué parce que l'eau de pluie ne va pas détruire, ne va pas éroder de plastique. Malheureusement, j'ai été chez les fabricants de tuyaux plastiques à Kinshasa. Ils m'ont dit qu'ils ne fabriquent pas de tels tuyaux parce que leurs tuyaux n'existeraient pas, la haute pression de l'eau qui traverserait à l'intérieur. Donc, malheureusement, c'est plus qu'il faut commencer. Au mois de décembre, au mois d'octobre, j'étais en Belgique, il luttait contre les érosions à, sur le port de Bruges. Comme vous le savez, notre port de Moanda est fortement, notre rive à Moanda est fortement menacée par les érosions, y compris les immeubles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a inventé maintenant une résine. Donc, c'est un produit liquide que vous injectez dans le sol. Au bout de quelques minutes, le sol devient un rocher. Pour convaincre les gens de l'OVD, j'ai amené cette résine à l'OVD. J'ai vu le PDG qui m'a demandé de faire la démonstration dehors avec l'ADT et avec les ingénieurs et les travailleurs. Ils ont pris le sable qui était dans leur parcelle. Je l'ai prêté à cette résine. Au bout de 3 secondes, le bloc prêté était devenu un caillou. Donc voilà, il y a de plus en plus de méthodes qui existent dans le monde. Qui apporte des solutions, parce qu'il ne suffit pas d'apporter des solutions. Depuis que je suis impliqué dans la lutte contre les érosions à Kinshasa, je vois qu'on recommence par exemple Mataba. Donc, si vous citez le site de Mataba, le site de Mataba a toujours été cité dans les érosions. Effectivement aussi, Kakio Mama, Mobutu. Donc c'est partout les mêmes érosions que l'on fait et qui recommence, que l'on fait et qui recommence. À ce moment-là, on n'a pas le temps d'aller même à l'intérieur du pays. Parce que tout le monde a peur de la situation de Kinshasa.
Mais professeur, donc, s'il vous plaît, les deux méthodes que vous avez présentées et les produits, mais vous êtes encore député national. Il y a un député qui est intervenu dans cette émission, Mary Okunde, qui a souhaité que vous puissiez amener votre expertise au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'au niveau de l'Assemblée, si le ministre était invité à l'Assemblée, c'est à travers l'Assemblée, on peut vous écouter pour que ces méthodes que vous présentez à l'OVD, à toutes ces structures qui ne semblent pas les considérer, puissent être prises en considération et que cette expérience puisse être utilisée. Est-ce que si vous y allez à travers l'Assemblée, comme vous êtes député, ça peut avoir des fruits que quand vous y allez comme chercheur, des fois, on ne semble pas vous écouter.
D'abord, il faut distinguer les choses. Moi, j'ai un bureau d'études. Je ne peux pas utiliser ma qualité de député pour m'imposer sur un marché où il y a un appel d'offres public. Non, ça serait touché. Je suis très, très content que des collègues, notamment au Congo et d'autres, tout le temps, chaque fois qu'il y a des problèmes techniques qui concernent la géologie, ils ont toujours insisté que je prenne la parole pour écouter aussi l'aspect technique. Ce sont en fait des hommes d'État. Des hommes d'État doivent aussi considérer surtout les aspects techniques. Nous avons été à Copenhague sur le changement climatique. Qui alerte que si on émet autant de carbone, il y aura changement climatique? C'est les scientifiques. Alors, je suis content que des collègues, tout en étant politique, ils nous insistent, comme Emery Okundi, qu'on ait des visions scientifiques. Ça, c'est une vision moderne de la politique.
réponds parce que quand on fait une mesure d'intervention sur ce méthode, je l'ai fait deux fois. Une fois en avoir appelé le ministre qui vient de sortir, Lombi-Pierre, j'ai expliqué aussi ce que je disais. Il m'avait dit publiquement au micro quand il a pris sa défense que nous allons associer étroitement les spécialistes, notamment le professeur Songo. Il m'a cité nommément. Bon, maintenant je suis associé plus comme contrôleur que comme quelqu'un qui donne les idées comment faire. Sur le raison de Kimberley, j'espère qu'on commence. Et puis, dernièrement, il y a un collègue qui se prend de ses raisons parce que au Parlement, je vois que les collègues mènent vraiment un combat. D'abord, comme dit Emery Okundi, c'est toute mesure parce que la cuvette centrale est sableuse. Donc, c'est partout où nous avons du sable. Partout, on se trouve sur la cuvette centrale. Et puis, je partage aussi ma vie d'Axel que le pays se meurt. C'est-à-dire que toutes nos villes sont menacées de destruction. Maintenant, si moi, alors il y a un collègue qui est intervenu la dernière fois, j'ai expliqué son méthode que l'on utilise à Bruges d'injection de produits. Je l'ai dit, j'ai vu les gens de l'OVD, je sais. Mais est-ce qu'il faudrait que je m'impose comme. Non, parce que les autres collègues qui ont des cabinets, des bureaux d'études, je peux tricher si. Mon offre est présentée comme député. Moi, mon offre est présentée avec des arguments scientifiques. Et je trouve l'avantage de contraindre les ministres
permettez qu'on donne la parole.
Scientifique.
Ok, permettez qu'on donne la parole aux deux derniers auditeurs, professeurs. Qu'on donne la parole aux deux derniers auditeurs, Bruno qui est à Ouvira et Charles qui est à Kananga. Donnons-leur la parole. Nous revenons à vous pour clôturer cette émission. Bruno, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les professeurs d'autres méthodes qu'on présente aujourd'hui. Bruno, est-ce qu'à Ouvira, vous avez des ravins d'abord? Est-ce que vous avez des érosions qui menacent la vie?
Nous avons des ravins. Les ravins se trouvent partout dans le pays.
Okay.
Je ne suis pas totalement d'accord avec le professeur parce que il est plus théorique. Nous, on a besoin des réponses pratiques. Admettons que nous avons pris conscience de travailler. Nous avons pris conscience de travailler à des ravins. Quelles sont les solutions, quelles sont les stratégies à monter pour terminer avec ces ravins-là? Vous sentez que le professeur, il est plus théorique, il parle de géologie, technique, carte, tout ça, c'est dans le lieu inhabité. Mais nous sommes dans un lieu habité, il y a déjà des ravins, il y a déjà une réalité devant nous. Quelles sont les réponses que le professeur peut nous donner?
Merci, Bruno. Ok, merci. Le professeur a entendu votre inquiétude. On aurait d'ailleurs souhaité d'avoir l'OVD dans cette émission pour pouvoir intervenir, mais malheureusement, on n'a pas eu l'ADG qui avait donné son accord de principe. Charles, vous êtes à Kananga. On termine avec vous. Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pratiquement à Kananga pour mettre fin à toutes ces érosions qui menacent la ville?
Merci beaucoup, monsieur. À mon avis, je trouve que pour mettre fin à ces érosions, il faudrait tout simplement qu'on applique le système de canalisation. Parce que quand moi j'étais encore enfant dans les années 60, j'avais remarqué que lorsqu'on faisait des lotissements, on prévoyait d'abord, on devrait d'abord prévenir, faire les canaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de canaux. Partout, sur toute la ville, il n'y a pas de canaux. Les anciens canaux que les colonisateurs avaient installés sont déjà cassés et c'est ça qui est à la base de toutes ces érosions. Alors pour cela, nous demandons à l'État de pouvoir faire mettre les canaux partout là, on va enfin mettre fin à cette situation. Sinon, on ne peut pas faire autre chose. Tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des théories comme mon prédécesseur est en train de le dire. Ça ne va absolument rien changer. Donc,
merci,
il faut mettre tellement les canaux partout.
Merci beaucoup, Charles. Vous êtes à Kananga, vous êtes le dernier auditeur. Nous remercions Hubert qui est à Bukavu, vos gens qui est à Kolwezi, Kakoul qui est à Kalemie. Ils n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes faute d'espace et de temps. Nous revenons à vous, professeur, parce qu'on va terminer cette émission. Dans deux minutes et demie, les auditeurs sont inquiets. Ils disent que les méthodes que vous expliquez risquent d'être trop théoriques et scientifiques parce que là, il y a déjà un problème au réel. Les gens, hier, 30 maisons à Kinshasa et autant de maisons peuvent encore couler d'ici là si on ne prend pas garde. C'est pourquoi ils ont besoin concrètement aujourd'hui qu'est-ce que le pouvoir public peut faire pour les aider à pouvoir vivre sans peur des érosions, professeur.
D'abord, je suis
Il s'agit de deux, Charles de Kananga, en ce qui me dit que je fais des études, partie de mes études secondaires à Katoubou. Donc, je suis vraiment de cœur avec eux. Je peux te dire que, en fait, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est abandonner les méthodes par lesquelles on lutte contre les érosions, parce que c'est très coûteux. Ensuite, ça donne des résultats qui, ça donne des ouvrages qui se redétruisent. Alors, cela n'est pas théorique du tout. Je propose, c'est comme un malade, qui a la malaria, on lui donne plutôt le calmant. Si un médecin dit non, il faut qu'on lui donne la quinine, on ne peut pas dire que c'est théorique, et avant qu'on ait essayé si la quinine est bonne. Non, moi je propose qu'on remplace les bétons par les tuyaux, qu'on attaque les érosions. Quand elles commencent encore, ce sont des petites érosions, là, ce moment-là, ça coûte jusqu'à 20, 30 fois moins cher, 40 fois moins cher. Donc, qu'on utilise les méthodes modernes qu'on utilise partout dans le monde, je les ai citées. Bien sûr, ça peut paraître un peu, mais je fais l'effort pour que ça n'ait pas totalement. Mais, Charles doit faire attention. Ce n'est pas vraiment la population de proposer les méthodes de lutte, parce que c'est très très scientifique, c'est très technique. Et la ville de Kananga, au moment où le système de drainage fonctionnait, a vu quel volume d'eau qui passait dans ce caniveau. Et c'est très technique. Lorsque quelqu'un construit une maison, c'est-à-dire l'endroit où il a construit une maison, l'eau ne s'infiltre plus. Cette eau va passer dans le caniveau. Lorsqu'on a construit le caniveau dans les années 50, c'était pour le nombre de maisons données. Mais
là, aujourd'hui,
il a construit une maison, peut-être je ne sais pas quel âge il avait à 50. S'il a construit une maison aujourd'hui, c'est qu'il a empêché l'eau de s'infiltrer là où est aujourd'hui sa maison.
Merci, donc,
va dans le caniveau. Le caniveau va continuer à supporter.
Merci, professeur. Merci. Vous avez proposé trois choses à faire. Remplacer les bétons par les tuyaux, attaquer les érosions au début et aussi à un produit qui peut transformer la terre en cailloux pour aider à la lutte contre les érosions. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté de donner de votre temps. Nous allons nous retrouver demain pour parler des mouvements d'encadrement des jeunes qui semblent disparaître dans le pays, comme les scoutismes, les giros, les colonies de vacances. Comment expliquer cette situation? Quelles sont les solutions que vous préconisez pour l'encadrement des jeunes? Réaction à pa@radiocapi.net. Passez d'un terme moment en compagnie des Radio Papi.